sommes entre Loire et Loing, c'est le magazine du Gâtinais sur C2L. Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous écouter. La semaine dernière, souvenez-vous, nous avions enregistré une émission spéciale en public, au hangar, à l'espace culturel de Chalette, à l'occasion de la journée de la paix. Alors si vous avez loupé ça, toutes les vidéos sont sur notre page Facebook Entre Loire et Loing. Nous avons décidé de remettre ça bientôt, avec une émission consacrée cette fois-ci à ce qu'il y a dans nos assiettes. Ça se passera le vendredi 15 octobre, toujours en gare, à Chalette. L'émission sera enregistrée à partir de 18h30. L'entrée sera libre, donc si vous souhaitez assister à l'enregistrement de l'émission, voilà, interroger nos invités avec nous, etc., vous êtes les bienvenus. Ça sera donc le 15 octobre à 18h30 au hangar, et ce même soir à 20h30, le hangar propose un spectacle burlesque musical intitulé Manger, sur le thème de la malbouffe. Donc réservez votre place pour ça, hein, au hangar, si vous souhaitez prolonger la soirée avec nous et voir le spectacle. On va commencer cette émission en musique avant d'attaquer un sommaire bien chargé aujourd'hui. On parlera théâtre avec l'ouverture de la saison Un dimanche au théâtre proposée par le service culturel de Montargis. Nous irons aux Tanneries, le centre d'art contemporain d'Amilly qui inaugure sa 6e saison intitulée Draw Loom avec 3 expositions que vous pourrez voir tout l'automne. On visitera tout ça tout à l'heure. Nous irons visiter un lieu d'exception à Montargis, le salon Chez la Reine Soleil, qui ouvre ses portes aujourd'hui avec un marché art et création, c'est rue Raymond Tellier. Vous verrez, c'est un endroit un petit peu singulier et ça se passe en plus là dans un appartement. Donc on en parle tout à l'heure. Nous irons aussi au musée Giraudet, ainsi qu'au forum des associations sportives de Chalette. Un sommaire bien chargé aujourd'hui, c'est Entre Loire et Loing. À tout de suite.
C2L Radio.
Nous sommes entre Loire et Loin, merci de nous écouter. Et nous allons commencer par aller visiter un lieu en devenir, un futur spot pour les Montargois amoureux de patrimoine et de culture. C'est au 9 rue Raymond Tellier, à deux pas de la rue Dorée. C'est un lieu qui ouvre ses portes dès aujourd'hui avec un marché art et création. La singularité de cet événement et des rendez-vous qui s'y dérouleront régulièrement désormais, c'est que ça se passe dans un appartement privé chez Isabelle Couty, alias la Reine Soleil. Nous sommes allés visiter les lieux en compagnie de Sandrine Manteau, bien sûr.
Entre Loire et Loin a décidé de passer un petit moment dans un petit coin de paradis en plein cœur de Montargis. Non, attends, je précise, c'est pas un petit coin de paradis, Monsieur Weber, c'est bientôt un petit coin de paradis. Alors, on se trouve exactement au 9 et 11 rue Raymond Tellier à Montargis, dans une maison absolument historique, du moins un ensemble de maisons absolument historiques, rénovées ou en cours de rénovation par Thomas David et Sébastien Plouchard. Thomas, raconte le début de l'histoire.
Bah déjà, c'est un sauvetage.
Oui, c'est un sauvetage.
C'est un sauvetage d'une maison bâchée qui prend l'eau et qui est pleine de ronces.
C'était quand ?
C'était en 2019.
D'abord, les garçons, vous vous étiez fait la main sur une autre demeure qui a été également sauvée.
Sauvée, qui était bâchée, qui était dans un état épouvantable.
C'était où ?
Boulevard des Belles Manières.
Entre les deux, hein ?
Entre la rue Dorée et le boulevard des Belles Manières.
Voilà. Alors cette maison, vous la connaissez bien, on y accède, enfin non, on n'y accède pas parce que c'est privé, mais en tout cas il y a un grand portail en fer forgé bleu avec un pont. Et il y a une petite tourelle avec des vitraux et dans cette tourelle il y avait des bains turcs.
Il y avait un bain turc à Étuve.
Alors déjà, cette première maison, vous avez mis combien de temps à la restaurer ?
On a mis 2 ans à la rénover. Totalement, la toiture, tout a été refait.
Voilà, alors c'est vraiment un exemple de sauvetage de patrimoine privé, en fait, voilà, à Montargis. Et puis, la deuxième maison, quand vous rentrez dedans, au début, pas du tout le coup de cœur.
Ah non, on a fait demi-tour et on s'est dit, c'est pas pour nous, enfin, l'état était correct, mais l'ambiance était vraiment assombrie par une décoration des années 60-70. Et du coup, on est reparti. Et c'est un an après, lorsque l'ensemble a été vendu, puisqu'il faut savoir que le 9 et le 11 ont été vendus séparément. Le 9 était à un particulier, le 11 était au domaine, a fait l'objet d'un appel à projet pour lequel on a été sélectionné par les domaines. Et nous, notre intérêt, c'était vraiment d'acquérir les deux, puisqu'elles ont un grenier commun et qu'elles ont une histoire relativement commune.
Alors, quelle est l'histoire de ces deux maisons ? Et ensuite, quel est le projet ?
Alors, ces deux maisons ont été réunies en 1636 par Antoine Lhôte, qui était un célèbre juriste, auteur des commentaires sur les coutumes de Loris. Et donc, la famille Lhôte a possédé la maison jusqu'en 1725.
Et on dit qu'un roi y aurait dormi, c'est ça ?
Alors, Louis XIV est venu à séjourner et a reçu dans la maison la princesse de Savoie, qui était la maman de Louis XV,
très beau,
lorsqu'elle est arrivée d'Italie.
Bon, alors, donc, formidable. Et quel est le projet qui a fait tilt pour les domaines ?
Alors le projet qui a fait tilt pour les domaines, c'est la partie du 11. Déjà, c'était notre volonté de préserver l'ensemble du patrimoine. Ça veut dire la maison sur rue, enfin l'immeuble sur rue et le petit pavillon côté canal. Et ensuite, nous, on a expliqué qu'on aimerait, dans un futur proche, c'est-à-dire sous 5 ans, l'ouvrir au public au travers d'un espace commercial de petites restaurations, salon de thé.
Mais il y a aussi autre chose, tu es apiculteur.
Oui.
Et donc ici, maintenant, on a du miel de Montargis. Voilà, il est là. Voilà, on peut acheter du miel local. Raconte.
Alors ça, c'est une passion d'enfance. J'avais 12 ans lorsque j'ai commencé. C'est un vieil apiculteur qui était agriculteur en biodynamie qui m'a pris sous son aile et qui m'a montré tous les rudiments de... C'est pas un métier, c'est une passion. Tout ce que je vais le dire en tant qu'apiculteur amateur parce que j'ai pas les mêmes contraintes qu'un professionnel qui vit de ça. Moi, je prône une apiculture naturelle où on laisse l'abeille se développer à son rythme. Pour avoir une première récolte, par exemple, je dois attendre 3 ans parce qu'il faut le temps qu'elles construisent leur propre cadre. Et ensuite, l'objectif, c'est vraiment de développer des colonies plus que de récolter pour moi.
Bon, alors ça, on donnera rendez-vous un jour à Sébastien pour qu'il nous fasse la visite de la miellerie parce que ça vaut en soi un reportage. Mais là, donc, est-ce qu'on va attendre 5 ans pour avoir un projet artistique, un projet de vie culturelle ici? Eh bien non, parce que les deux garçons ont rencontré la locataire idéale. Et la locataire idéale, elle s'appelle Isabelle Couty. Vous êtes nombreux à la connaître dans le Montargois, elle est là. Et pour Isabelle, l'histoire, l'aventure culturelle, c'est maintenant, c'est la semaine prochaine, c'est ça?
Bonjour, oui, c'est le 2 octobre que commence... Chez la Reine Soleil, donc commence la belle aventure de chez la Reine Soleil. Donc il y aura une exposition de 9 artisans, artistes, créateurs, comme il y avait au Bellman il y a 4 ans. Donc je reprends les marchés à récréation qui ont disparu depuis 4 ans. Et voilà, c'est prévu ici parce que le lieu s'y prêtait. Et puis voilà, j'ai eu la chance de pouvoir louer chez Sébastien et puis Thomas. Donc un très bel appartement qui se prête très bien, ce genre de projet.
Voilà, alors l'originalité de ton projet, c'est de faire ça en appartement. Il va y avoir des expositions. Tu es entre autres créatrice de bougies, de bijoux. Et pas de bougies, ça c'est les bougies. Et en fait, Isabelle a fait des bijoux. Et puis, mais il ne va pas y avoir que ça. Dans cet appartement absolument somptueux, il va y avoir également des ateliers de création que tu avais déjà commencé ailleurs.
Non, justement.
Justement, c'est une création.
C'est une création, ces ateliers.
Et puis, il y aura également des concerts, c'est ça ?
Des concerts, des pièces de théâtre, des chansonniers, bon, tout plein de... des cafés littéraires aussi, des apéros en fait, littéraires, parce que je demanderai aux gens à chaque fois d'apporter à boire, à manger, et après la prestation des invités, donc on pourra manger et boire tous ensemble, on mettra tout en commun dans une autre pièce. Et voilà, c'est vraiment une façon de continuer à rendre ce lieu très convivial et atypique toujours.
Ah oui, alors là, extrêmement atypique, ça c'est sûr. Et donc, dans ces concerts, il y aura une trentaine de personnes, une trentaine de privilégiés, sachez-le. On va s'arracher les places donc chez la Reine Soleil, c'est ça ?
C'est ça, chez la Reine Soleil. J'assume tout à fait, parce que voilà, comme Louis XIV a dormi ici, que j'ai envie d'ensoleiller la vie de tout le monde, la vie de mes voisins aussi... mes propriétaires, j'ai envie de... Oui, puis voilà, puis c'est dans mon caractère, quoi, la Reine Soleil. J'avais envie d'avoir ma cour, donc voilà, je vous invite tous, j'invite tous mes courtisans à venir assister au spectacle.
C'est bien. Alors, la première date, c'est le 2 octobre. Exposition artisanale, de 10h à 19h, et vous serez combien d'artisans?
On sera 9 artisans, artistes, créateurs, enfin on est tous mélangés, pour vous recevoir à l'intérieur, enfin chez moi, quoi, dans l'appartement.
D'accord. Ensuite, le premier concert, c'est quand ?
Alors, après le 9 octobre, il y aura un atelier cyanotype.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors, les cyanotypes, c'est un ancien procédé de photographie. Il faut qu'il y ait du soleil ce jour-là, donc c'est des impressions de végétaux grâce au soleil à partir d'un procédé chimique. Donc voilà, le 2 octobre, vous pourrez découvrir ce que je vous proposerai parce qu'il y aura des échantillons. voilà pour ce jour-là, le 9 octobre. Le 15 octobre, il y aura un apéro littéraire avec Josette Chiche-Portiche, qui a fait la traduction en français d'Autant en emporte le vent, qui l'a refaite l'année dernière, demandée par l'État français, puisque Autant en emporte le vent est tombé dans le domaine public. Donc elle viendra vous expliquer tout le travail de recherche qu'elle a fait au sujet de cette traduction. Et le 22 octobre, il y aura un concert en hommage à Georges Brassens. Donc tout le mois, il y a des choses de prévues, enfin, des concerts, des activités, des manifestations de prévues tout le mois d'octobre.
Et ben voilà, c'est bien, non? Et vous, les garçons, on patiente, c'est ça?
Nous, on veut que ce soit bien fait. Voilà, on veut un endroit qui soit comme il doit être, puisqu'il doit nécessairement pouvoir recevoir les personnes à mobilité réduite. Donc c'est des travaux qui sont énormes. Donc on n'a pas d'objectif particulier, on veut que ce soit bien fait. Voilà.
Merci.
Zig zig hello. Accrochez-vous. On va décoller avec vous pour n'importe où, pour quelques sous. Le zig zig. Au buffet des amours, c'est le plat du jour. Le zig-zig, nous c'est notre métier de zigziguer. Nous avons de jolis coffres forts, notre corps. Et si vous voulez la clé, on va pouvoir s'arranger. Le zig-zig, si vous êtes gentil, vraiment gentil. Le zig-zig nous paiera la maison dont nous rêvons.
Zig-zig, zig pour l'architecte.
Zig-zig, zig pour l'hypothèque.
Zig-zig, zig pour le plombier.
Et pour l'électricité. On avait prévu ça au pensionnat. Le zig-zig, on avait 14 ans et les seins blancs. Mais déjà, on ne pensait qu'à ça. Et voilà, on était pas mal roulés. On allait en profiter. Le zig-zig, on connaît tout par cœur. Ou le Kama Sutra, on a la foi.
Zig, zig, zig pour l'architecte.
Zig, zig, zig pour l'hypothèque.
Zig, zig, zig pour le plombier.
Et pour l'électricité.
Zig, zig sur vos genoux.
Zig, 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 oh, c'est si doux.
Zig, 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 on peut toucher.
Avant de zig, zig, zig.
C'est deux ailes.
Nous sommes toujours entre Loire et Loin sur ces deux ailes. C'est le magazine du Gâtinais et c'est en vidéo sur les réseaux. Alors abonnez-vous à notre page Facebook, likez, commentez, partagez. Je vous rappelle que l'émission de radio, ce n'est qu'une partie du magazine et qu'il y a des reportages vidéo qui ne sont pas diffusés à la radio et inversement. Jean-René Coquelin, adjoint à la culture de Montargis, Hervé Moplot, le directeur des affaires culturelles, et Jean-Philippe Laju, le programmateur de la saison Un dimanche au théâtre, nous ont reçus cette semaine, parce que ça commence.
Donc c'est la 11e saison de théâtre à Montargis, théâtre d'Un dimanche au théâtre. Donc je vais laisser Jean-Philippe juste en parler, parce que, mais je, en plus... Voilà, je suis heureux de l'accueillir. C'est quelqu'un qui nous aide dans dans ce domaine-là et dans d'autres, bien entendu, mais c'est quelque chose auquel je tiens parce que c'est du divertissement populaire, on peut dire de la culture populaire peut-être, plutôt du divertissement populaire, et il y a un impact sur la population, sur les gens qui fréquentent, et j'en suis ravi parce qu'on remplit la salle des fêtes depuis 10 ans, même si c'est la saison dernière. Ça a été un petit peu limité parce que, pour des raisons que tout le monde connaît. Et j'en suis ravi, je suis très heureux. Voilà, donc 3 pièces cette année, janvier, février et mars. Et je vais laisser Jean-Philippe.
Pour cette 11e, on a fait un choix, c'est de proposer une grosse saison. Quand je dis une grosse saison, c'est 3 belles pièces avec de belles distributions. Pour relancer un peu la machine, parce qu'on souhaitait faire une 10e année triomphante. Elle a été un peu gâchée par les raisons du Covid. Donc on s'est dit, allez hop, on va essayer de repartir sur une 11e saison un peu brillante. Et puis, il faut savoir que dans cet engagement qu'on a avec la mairie de Montargis, et ça c'est très particulier, c'est qu'on travaille très très en amont des productions à venir. C'est-à-dire que moi, j'ai un gros relationnel maintenant dans la production qui fait que je reçois les pièces sans qu'elles existent. Si vous voulez, pour faire simple, j'achète des pièces, je coproduis des pièces, je fais la musique de pièces qui n'existent pas. On les achète sur le papier, c'est-à-dire que je reçois ce que vous voyez là, le texte, avec une première distribution. On essaye de tout lire, de voir ce qui pourrait vraiment s'adapter dans le cadre de la dynamique du théâtre à Montargis. Et puis, si on s'engage dans la pièce, on va faire une première lecture avec les comédiens. Alors une lecture, ça se passe comme ça, hein. On a le texte, on est autour de la table, et puis on essaie de deviner à quoi va ressembler la pièce. Et souvent, Montargis, à part pour les cachotiers qui viennent démarrer, est en avant-première de toutes les saisons. Voilà. Qui vole un œuf, à mon avis, ça va être une avant-première. The Canapé, ça va être une avant-première aussi. Pratiquement, là, ça va jouer un peu sur la fin de l'année, mais à Montargis, ça va être une relance de saison 2022 qui va être très importante. Donc, la salle des fêtes nous permet, et le public acquis et fidèle, nous permet de nous engager comme ça sur des productions à venir et de partager, je dirais, un demi-risque, hein, parce que si vous regardez la distribution de cette saison 2022, elle est quand même un peu glorieuse. Et c'est qu'on va ouvrir avec une pièce Maus Costaud qui a été écrite par Patrice Lecomte. Donc ça, c'est plutôt sympa, ça envoie des signes en même temps, hein. Ça veut dire que effectivement le théâtre à Montargis existe, il est fort. Il y a une vraie demande, donc il faut répondre à cette demande en mettant en face des pièces avec une ossature certaine pour pouvoir continuer à attirer nos publics, qui sont pour une part des publics fidèles. On l'a vécu pendant des années avec un pass théâtre qui a été mis en place par la mairie et qui permet tout de suite d'acquérir 500-600 personnes devant chaque pièce, et puis après la jauge se fait au fil du temps jusqu'à la date, ce qui nous permet d'avoir des moyennes de plus de 800. Sur la distribution, vous avez vu qu'on revient, avec des comédiens qu'on a déjà eus à la salle des fêtes. Je pense que le public aime bien retrouver aussi des têtes connues. C'est le cas de Beccaro, c'est le cas de Didier Gustin. Qui amène toujours une grosse dynamique dans les pièces. En plus, sur cette première pièce, on a une très très belle distribution puisqu'on aura 6 acteurs sur scène. Ça aussi, c'est important. Pour la plupart des pièces, maintenant, pour des raisons économiques, vous trouvez beaucoup de pièces avec 2-3 comédiens. 4, c'est déjà un gros effort. 5, c'est extraordinaire. 6, c'est merveilleux. 7, c'est un exploit. Voilà, pour vous donner l'échelle de valeur dans ce type de programmation. On va retrouver aussi Henri Bibé et Tex pour Qui vole un œuf. Avec Henri Bibé, j'ai une fidélité. Il se trouve que, en plus, cette année, je réalise et je compose la musique de ces 3 pièces. Mais avec Henri, il y a une fidélité depuis un petit moment qui est presque un jeu entre nous. Donc, pour les cachotiers, on m'a demandé une musique qui est plutôt un peu pop et qui ressemble à l'univers de Friends. Pour The Canapé, on est plutôt dans une ambiance de magasin un peu bossa, un peu brésilienne. Et puis pour Qui vole un œuf avec Henri, c'est toujours un jeu de tous les instants. Donc là, il m'a demandé de la chanson réaliste et de la java. Donc c'est-à-dire, on est quand même dans trois univers totalement différents. La pièce d'Henri, je pense que c'est une petite merveille, avec Tex, ce sont deux comédiens qui emmènent bien le théâtre. Et puis en plus, surtout et encore une fois, à Montargis, on est très attaché au second rôle, et dans toutes les pièces, on a des seconds rôles magnifiques. Voilà. On aura notamment pour la pièce de Canapé, on a Jean-Luc Moreau qui est aussi un metteur en scène, qui sera le metteur en scène de Qui vole un œuf et de The Canapé. Mais on a surtout Sophie Mounico, qu'on a vu notamment dans la série H, qui vient là en second rôle dans cette pièce de Patrice Lecomte. Et la façon d'amener les portes qui claquent et les gens qui se trompent est différente. Mais ça reste un moment de comédie intense, fort. C'est un rendez-vous que les gens attendent, et puis on le voit encore une fois avec la fidélité du public et son accord au moment du passe-théâtre. Et je dirais que le quatrième événement en dehors de ces trois pièces, j'espère qu'on va le retrouver cette année, on l'a perdu un peu avec ces deux années de Covid, le quatrième événement, c'est le jour d'ouverture de la billetterie. Je vous invite à aller à l'office de tourisme, vous allez voir ce que c'est. Ça fait la queue, ça se pousse, les gens en veulent, donc pour nous, ça c'est du pain béni.
Un dimanche au théâtre, c'est la saison théâtrale proposée à la salle des fêtes de Montargis. Les trois pièces sont programmées en janvier, février et mars 2022, avec du beau monde, comme toujours. Mais 2022, ça semble loin, mais les réservations commencent dès la semaine prochaine, le 6 octobre, à la médiathèque et à l'office de tourisme de Montargis. Et comme les places sont numérotées, il ne faut pas tarder pour avoir les bonnes places. Direction le musée Giraudet à Montargis avec une exposition exceptionnelle, De la Croix et le duel romantique. Sidonie Le Meufretto, responsable des collections du musée Giraudet, au micro de Patrice Avzard.
Ici au musée Giraudet, une nouvelle exposition, De la Croix et le duel romantique. Vous pouvez nous présenter un petit peu cette exposition qui va se tenir ici durant trois mois?
Alors, c'est une exposition en partenariat avec le Musée National Eugène Delacroix, qui fait partie de l'établissement public Musée du Louvre. Donc, c'est un partenariat très prestigieux pour le Musée Giraudet. Nous en sommes ravis. Qui présente Delacroix et son lien et ses lectures avec un poète anglais qui s'appelle Byron et qui a inspiré toute la génération romantique depuis les origines, Lamartine, Victor Hugo.
Justement, qu'est-ce qui a donné l'envie de créer cette exposition donc en collaboration?
Déjà l'envie de montrer Delacroix au musée Giraudet, parce que c'est la première fois que nous exposons des tableaux de Delacroix au musée Giraudet. Delacroix, c'est le plus célèbre des tempéraments romantiques, mais Delacroix ne serait pas Delacroix sans Giraudet. D'où l'intérêt en fait de faire un événement autour de Delacroix au musée.
Donc on va retrouver certaines de ses œuvres, mais pas que, durant ces trois mois?
Non, en effet, donc la salle centrale est la salle centrale est consacrée à Delacroix, bien sûr, mais on l'a fait précéder d'une petite salle qui montre des œuvres de Giraudet et de Gros pour expliquer comment le regard d'un jeune romantique se nourrit des inventions, déjà, de ses aînés, élèves de David.
Et pourquoi l'avoir intitulé Delacroix et le duel, justement, le duel romantique?
Ah, alors ça, c'est tout le sujet de l'exposition. En fait, Delacroix illustre un poème qui s'appelle le poème du Djaour, composé par Byron, un poème qui est centré sur le duel. Et en fait, la représentation du duel est quelque chose de nouveau en peinture. En gros, sous l'Empire, les peintres peignent beaucoup de combats de Français contre les Anglais, combats de Français entre eux, des combats, on va dire, événements militaires entre des nations. Et peu à peu, le focus va se faire sur non plus l'événement combat, mais sur ce que l'homme ressent dans les combats. Donc l'expression humaine, les sentiments, les affections, la peur, la haine. Et Delacroix va se concentrer sur deux hommes pour montrer la haine, ce que peut donner la haine dans un combat à mort.
Oui, on peut le voir notamment sur un tableau. une violence avec deux hommes qui sont l'un très proche de l'autre et le cheval, les chevaux blancs avec du sang.
Complètement. Alors, c'est de la croix se nourrit évidemment de Girodet, mais bien plus encore de toute la tradition picturale de la violence que l'on peut faire remonter à Léonard de Vinci et à sa célèbre bataille pour l'étendard dans Gary, où, pour la première fois en peinture, non seulement les hommes combattent, mais les chevaux aussi avec eux, ce qui renforce évidemment la tension et la violence de la représentation. Delacroix s'en nourrit et s'en empare d'une manière magistrale en montrant deux hommes et deux chevaux aux prises les uns avec les autres. On connaît très bien le goût de Delacroix pour la représentation d'animaux, que ce soit les lions ou les chevaux. Et en fait, il transforme et il transfère le combat humain aux animaux.
Combien d'œuvres exposées pour cette exposition ?
36. C'est une modeste exposition, mais avec des chefs-d'œuvre qui nous sont prêtés de partout, du Louvre, du musée d'Orsay, une collection particulière qui prête exceptionnellement un ensemble très rare de livres, la Fondation de Dompierre et des musées de toute la France.
Oui, c'est véritablement un moment exceptionnel que d'avoir du Delacroix ici.
Complètement. Je ne peux qu'inviter le public à venir chez nous admirer Delacroix à Montargis.
Une exposition exceptionnelle, donc Delacroix et le duel romantique au musée Girodet. L'expo a ouvert cette semaine et on peut signaler deux rendez-vous. Cet après-midi, samedi à 16h30, il y a une rencontre avec les commissaires de l'exposition. Et demain, dimanche 3 octobre, à 14h30 et 17h, il y a un spectacle, une sieste musicale. C'est sur réservation au 02 38 98 07 81 ou sur musée-girodet.fr.
Bonjour, je suis Maître Lemoine de la Chambre des notaires du Loiret. J'ai le plaisir de vous retrouver chaque jour dans la chronique du notaire sur C2L Radio. Je réponds à toutes les questions qui sont transmises à l'adresse de la radio contact@c2l-radio.fr. À très bientôt sur C2L.
C2L Radio.
C2L.
Entre Loire et Loin, merci de nous écouter et merci de nous regarder en vidéo sur notre page Facebook Entre Loire et Loin, notamment car le reportage qui suit, ça vaut la peine d'être vu. Le centre d'art contemporain L'Étannerie à Amilly a inauguré sa 6e saison Drawloom, avec 3 expositions à découvrir cet automne. Donc visite guidée avec Eric Degout, son directeur, et Louise Lemoine, chargée de com, au micro de Sandrine Manteau.
Bonjour à tous, amis d'Entre Loire et Loin. On se trouve actuellement aux Tanneries à Amilly, centre d'art contemporain, et on est à 30 minutes d'un moment important puisque c'est l'inauguration de la nouvelle saison, n'est-ce pas, Eric Degout?
Tout à fait, oui, une nouvelle saison avec une émotion particulière cette année puisqu'on réouvre un 25 septembre, quasiment 5 années jour pour jour avec l'inauguration du lieu. Donc voilà, c'est un bel anniversaire.
Bon, très bien. Alors, cette année, la saison artistique s'appelle Drawloom. Et alors, Louise, vous êtes chargée de communication, de développement, c'est ça? Racontez-nous cette saison.
Alors, donc, je pense que je céderai aussi la parole à Eric, puisque c'est quand même lui le programmateur des tanneries et le directeur. Et c'est lui qui conçoit notamment les saisons des tanneries. C'est-à-dire que on fonctionne vraiment sur une année quasiment scolaire. Donc, la plupart du temps, on ouvre de septembre, soit fin septembre, début octobre, jusqu'à la fin du mois d'août, ce qui donne une belle année de programmation. Et on fonctionne par cycle. Donc, toutes les expositions qui se retrouvent dans leur diversité au sein des tanneries, elles sont quand même toujours plus ou moins reliées par un fil rouge, un fil conducteur qu'on appelle un fil de saison. Et là, cette année, c'est Drawloom. Et ça tombe bien parce que si on parle de fil, Drawloom, c'est le métier à tisser en anglais. Et c'est vraiment cette manière qu'on a de créer des liens en fait, entre les œuvres, entre les artistes et entre les programmations satellites qui sont aussi autour des expositions, puisqu'il s'agit de conversations publiques. Enfin voilà, on va vraiment tout faire pour générer une forme de rencontre, que ce soit en amont des expositions sur les temps de montage, ou en aval, ou pendant l'exposition, entre les artistes et les publics, tout aussi variés soient-ils. Et donc là, c'est le métier à tisser, qui est un petit peu notre canevas pour l'année. Voilà.
Eric, vous faites votre marché des artistes durant toute l'année ?
Exactement, au fil des 4 saisons. Donc c'est un marché qui est toujours d'actualité, en fait. Comme le dit Louise, on a ce fil de saison qui est un principe, un prétexte, en fait, pour proposer au public des passages d'univers artistique à un autre et de garantir une forme d'entrée possible sur la saison. Mais ce qui ne veut pas dire que c'est la seule et unique, c'est juste une invitation, c'est juste une porte qui s'ouvre sur un univers artistique très, très compliqué et très, très différent à chaque fois, mais qui est celui de la création en cours.
D'accord. Rappelez-moi un petit peu L'Étannerie, 5 ans après, ça a été combien d'expositions? Ça a été combien en termes de public? On verra. En plus, vous êtes tombé sur 2 ans de confinement. Donc,
Oui, ça a été un peu haché, comme pour tous les lieux de la culture, en fait, de la diffusion artistique. Mais ces 2 années qui ont été un peu chaotiques, elles n'ont pas été pour nous des années perdues, bien au contraire. Parce qu'on a développé des nouvelles formes, on a accompagné, on a maintenu nos présences auprès des artistes, on a développé des projets, des éditions. Donc, en fait, ça a été la possibilité d'investir même des espaces qu'on pensait pouvoir investir plus tardivement. Donc, on a fait une belle phase d'expérimentation. Alors, 5 ans, c'est à peu près chaque saison, c'est une dizaines d'expositions, donc voilà, ça vous donne une idée du nombre d'expositions qui sont passées sur la durée. une fréquentation qui est allée crescendo. Alors évidemment, les deux années qui ont été les années de Covid ont un peu limité nos premiers enthousiasmes, mais on a de grandes certitudes sur la possibilité de revenir très vite à un niveau assez intéressant pour un lieu comme les tanneries, situé donc en une zone périurbaine à proximité de Montargis. Seulement à une heure de Paris, on a 20% de notre fréquentation, ce sont des publics parisiens. On a encore une quinzaine de pourcents, ce sont des publics hors département et hors région. Donc ça montre la capacité de rayonnement d'un lieu comme celui-ci. Et pour confirmer cette réalité, cette reconnaissance et cette capacité de rayonnement, on devrait très prochainement avoir un label d'intérêt national qui montre toute la qualité du projet et la qualité de sa programmation.
Oui, parce que en fait, les tanneries, c'est beaucoup de médiation auprès des publics.
Absolument. Alors là, je ne suis pas forcément la mieux placée pour en parler, même si évidemment j'ai une vision globale de tout ce qui se passe aux tanneries en tant que chargée de communication. Mais la médiation, ça passe aussi beaucoup par le travail de Jeanne Péloquin, qui est notre chargée des publics et du développement territorial. Et donc on fait vraiment tout, évidemment, pour que les gens se sentent accompagnés, sans toutefois se sentir, je dirais, trop oppressés par un discours qui pourrait être autoritaire ou voilà. Voilà, donc on est vraiment sur une médiation à chaque fois qui vraiment va mettre au cœur de son projet la création, que ce soit à travers les ateliers en famille qu'on programme par exemple tous les premiers samedis du mois. On va vraiment se servir des expositions comme une sorte de point de départ aussi à la création de chacun, au développement de l'imaginaire de chacun. Donc l'exposition n'est pas une fin en soi, au contraire, c'est vraiment un début de quelque chose. Et c'est aussi ce qu'on travaille avec, je pense aussi au développement des résidences territoriales, aussi au lien extrêmement fort avec les publics scolaires locaux, mais aussi régionaux. Et puis tous nos partenariats avec les écoles, comme avec les REA, par exemple, sur des chantiers écoles. On a des formes de médiation qui sont très variées, qui vont de l'accompagnement du public du visiteur libre, comme on l'appelle, mais aussi jusqu'à des formes de médiation plus poussées, comme des chantiers écoles qu'on développe avec notamment les REA Simone Veil-Damy, où d'une certaine manière, on va se servir d'un point de départ aussi d'un projet artistique pour les faire intervenir, qui nous apportent leurs compétences qu'on n'a pas forcément en interne sur sur la peinture, la menuiserie, toutes ces choses-là. Et eux, ils vont découvrir un univers auxquels ils ne sont pas forcément encore sensibilisés. Et ça va leur donner des perspectives aussi d'épanouissement et de développement professionnel et personnel. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on aime bien mettre en place. Et donc, je parlerai vraiment de médiation à toutes les échelles. Ouais.
Bon, alors je suis sûre que Éric Degoutte, le directeur de ce lieu, piave d'impatience de nous donner quelques mots, quelques points d'explication sur les différents artistes qui sont présentés aujourd'hui lors de cette inauguration. On va faire un tour de site, si encore possible, Éric. Alors, on y va. Donc, Éric, alors, moi, en tant que visiteur lambda, je me retrouve dans un univers absolument onirique, avec donc une création plastique, lumineuse et sonore. Racontez-nous de qui il s'agit.
Alors, c'est une proposition de Martina Balea. Martina Balea est une artiste qui est engagée dans la création contemporaine depuis presque 50 ans. C'est quelqu'un qui a exposé un peu partout dans le monde et qui nous fait l'honneur de venir investir la Grande Halle. Martina Balea a comme principe de redonner à découvrir les lieux. Elle les transforme dans une approche en effet totalement onirique, dans un cadre de mise en scène à la fois lumineuse, sonore, mais aussi à dimension mobilière. Ce projet, il est exceptionnel parce qu'il investit complètement cette grande halle. C'est quand même 1500 m² d'un seul tenant, c'est 6 mètres de hauteur. C'est un lieu qui est chargé d'histoire industrielle. Nous sommes dans les friches du centre d'art. Et elle nous le transforme complètement. On est pris vraiment dans un univers très singulier, très particulier. On peut même utiliser le terme de beauté, parce que je crois qu'il y a vraiment cette idée-là d'avoir quelque chose, une installation donc qui est constituée d'un grand voile qui est animé par un souffle d'air et qui crée l'impression d'une vague sans fin qui continue d'arriver sur la grève. Et puis en fond de salle, on a une espèce de laboratoire composés de verres industriels qui sont éclairés et mis en scène d'une manière assez remarquable. Pour information, ces verres sont les verres de la collection du musée du verre de Dordive.
Eh bien, j'allais vous dire justement qu'on était tout proche de Bagnaud, même, et de toute une tradition de verre industriel. Et de même, évidemment, moi, quand je vois cette eau qui bouge, je pense aux cuves et je pense au loin qui enserre cette île. Est-ce qu'elle y a pensé ?
Tout à fait. C'est justement en prenant la mesure du lieu, Martine est venue, comme tous les artistes, visiter, parcourir les espaces, s'intéresser à l'histoire du lieu. Donc, on lui a notamment parlé du circuit hydrologique qui animait ce centre de traitement des pots. Et donc, elle a repris cette idée, mais elle l'a interprétée à sa manière. Et elle nous en donne une matérialisation, une présentation tout à fait spectaculaire.
Louise, vous aimez ce lieu ? Vous aimez cette œuvre ?
J'aime beaucoup la Grande Halle, mais j'aime tous les espaces des tanneries parce qu'ils offrent aussi une variété aux artistes d'appréhension des espaces et du coup de création. Parce que c'est vrai aussi que les tanneries, par leur spécificité et la spécificité de chacun des espaces d'exposition, invitent les artistes à ne pas seulement présenter des œuvres qu'ils auraient faites au préalable, mais vraiment à prolonger et parfois même à se réinventer, je dirais, au contact des lieux. Et c'est pour ça qu'on est aussi une plateforme de production, véritablement, où les choses, voilà, on génère beaucoup d'œuvres inédites. Ça permet aussi aux artistes donc, de poursuivre leur cheminement. Et c'est vraiment le cas, notamment avec Martine ici, puisqu'on retrouve un peu tous les éléments de son vocabulaire traditionnel, vraiment, qu'elle a tissé au fil des années et qu'on retrouve complètement remanié ici et magnifié par le site qu'elle a su, qu'elle fait renaître aussi d'une certaine manière. Martine, c'est quelqu'un qui est vraiment très attaché à l'aspect mémoriel des choses et des endroits, et elle s'ingénie souvent, un peu comme une archéologue, comme elle aime le dire, à vraiment étudier toutes les morphologies, que ce soit géographiques, mais aussi historiques d'un lieu, et pour les faire revivre à travers des fictions, des débuts de fiction, et puis qu'elle laisse aussi pleinement le visiteur compléter à son envie.
Voilà, alors que les visiteurs se fassent leur histoire, en effet, et alors c'est merveilleux parce que ça peut parler aux enfants de façon fabuleuse, cet endroit, n'est-ce pas ?
Grands enfants, tout le monde, je pense.
Alors on va changer tout à fait d'univers, je pense, d'artiste et d'étage aussi. De niveau.
Juste avant de découvrir le travail d'Élodie de Lesourd sous la verrière, dans le hall se trouve une œuvre accrochée au mur de Dominique Debert, qui nous a fait le plaisir de mettre en dépôt cette œuvre sur la durée totale de la saison. Donc elle va être vraiment le fil rouge. Cette présence sur l'ensemble des enjeux de Drolum. Et ce que l'on voit sur cette diptyque, en fait, ce sont deux bobines de métier jacquard qu'elle a retravaillées.
De quoi ?
De métier jacquard.
D'accord.
Les métiers à tisser jacquard ont été comme les automates au 18e siècle et 19e siècle, avec des petits trous. C'est l'orgue de Barbarie. C'est le même principe. Et donc, c'est ce qui a permis, pendant le 19e siècle, de générer une industrie textile à travers une mécanisation, en fait, du tissage. Donc Drolum, c'est aussi une plongée comme ça dans les principes et les échos qui peuvent exister dans les mises en œuvre des principes de tissage et qui inspirent autant les artistes que nous.
Alors, donc, on disait, on se retrouve devant une installation d'Élodie Lesourd avec encore une création sonore, Eric.
Tout à fait.
Et donc, c'est une photographe, c'est... Qui est-elle ?
Alors, Élodie est une personne, une artiste
complexe. Complète et complète.
Complète, c'est le visiteur qui va le s'en assurer. En fait, c'est quelqu'un qui fait le lien entre deux champs de création, qui est celui des arts visuels et celui de la musique. Elle est très intéressée par, justement, les liens qui peuvent se tisser, les possibles qui peuvent relier l'un à l'autre, les tentatives d'harmonie qui peuvent se construire à travers ça. Alors, c'est vrai que c'est aussi les surprises de la programmation, puisque quand j'ai invité Martine et Élodie, et puis vous verrez que la question de l'harmonie est aussi présente dans l'exposition Figure de pensée, c'était pas une idée qui émergeait de fait, mais qui s'est imposée là au moment de l'installation, et je trouve ça assez incroyable, parce qu'on qu'on glisse, après avoir vécu ce moment intensif dans la grande halle, quand on arrive dans la verrière, à une autre forme de mise en situation d'harmonie, alors qui n'est pas construite du tout de la même manière. Elodie a profité de sa présence sous la verrière pour d'abord travailler le lieu en composant une structure sculpturale en premier plan qui reprend les fermes en fait de la grande charpente de la verrière. Elle l'a posée au sol comme si celle-ci se prolongeait, était désarticulée et venait constituer un nouvel espace d'accrochage et de mise en situation d'image. Ce sont des impressions sur film transparent, mais des images qui sont un peu poussé à leur paroxysme, dans les limites même de ce qui émerge sur la donnée, qui est un des points d'attention d'Élodie. Elle va l'aborder d'une manière différente à chaque fois, et vous allez voir dans la petite galerie qui complète cette installation, que la peinture hyperréaliste a cette même prétention d'aller au bout des choses et du représenter. Donc c'est quelque chose de particulièrement significatif du travail d'Élodie.
Est-ce que je me trompe, Eric, si je dis que cet artiste travaille sur la vibration, voire sur la vibrance ?
Non, c'est un univers qui lui convient bien, puisque justement, dans ce rapprochement qu'elle a entre transcription graphique, iconographique et transcription musicale, on est sur ces enjeux-là. Les couleurs, la vibration, le moment sur lequel l'image se fixe sans se fixer. C'est peut-être au moment où on croit avoir fixé l'image qu'elle s'évapore. Et il y a ce rapport-là dans le travail d'Élodie qui est intéressant. C'est comme si on était constamment en travail d'accommodation. Vous savez, l'œil, quand il doit regarder au loin, au proche, quand on vieillit un peu, on a un peu plus de problèmes, il doit s'accommoder à la distance et réagir plus ou moins bien pour faire une mise au net. Le travail d'Élodie, il est un peu dans ce mouvement-là constant de l'œil, de l'accommodation du regardeur, à différentes strates d'images, de peinture, de représentation, de formes d'expression artistique, donc art visuel et musique, et elle nous emmène à pérégriner et à voyager dans ces univers-là.
Est-elle elle-même musicienne ?
Oui, Élodie, en fait, a vraiment cette double qualité d'artiste plasticienne et de musicienne. D'ailleurs, elle fait souvent intervenir la musique, mais même de manière performée au sein de son travail. Elle développe des concerts, voilà, des choses comme ça. Et de toute façon, tout son travail est aussi imprégné de musique. Parfois, de manière plus précise, sur le rock, notamment, dans laquelle elle a baigné, qui est une grosse source d'inspiration, mais pas que, c'est très ouvert. Là, par exemple, dans cette exposition-là, on a aussi bien des références rock avec ses peintures qu'elle appelle hyper rockalistes, donc qui est vraiment un néologisme et un concept qu'elle a développé depuis quelques années maintenant. Et aussi, par exemple, un compositeur très ténu comme Giacinto Chelsea, qui est un compositeur italien de musique, je dirais, concrète, voilà, telle que pouvait l'être un Frank Zappa, mais a posteriori. Donc, on est sur des choses qui ne sont pas vraiment très connues du grand public, mais qui sont des révolutionnaires de la composition musicale aussi. Donc, c'est quelqu'un qui va jongler avec beaucoup, beaucoup de références.
C'est très énergique, hein. C'est très direct, en fait. C'est très rock.
Oui, oui, il y a vraiment cet esprit aussi de l'essence du punk, du do-it-yourself. Mais il y a une forme d'intemporalité dans son travail aussi.
Waouh. C'est un choc. Vous savez, Eric, je vous écoutais parler tout à l'heure. Encore plus que vous, Louise, j'en suis désolée. Je me disais que ce type-là côtoie la poésie au quotidien. Vous avez un langage poétique et vous baignez. Je pense que l'art contemporain est la poésie actuelle. Et quand je vois ça, je me dis que... Est-ce que j'ai des bêtises ?
Alors, oui, non. Non, la poésie, pas toujours, non, parce que l'art, la création d'aujourd'hui, c'est très, très réel. Donc, c'est des conditions de mise en œuvre, c'est des conditions d'échange, de contact, d'aide à la production. Donc, on est dans le concret tous les jours. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension et un état d'esprit qui est intéressant et qui sur lequel, moi, je me suis situé depuis quelques années déjà, qui est incroyablement... enrichissant d'une part et puis qui vous amène vraiment à cette construction du regard. Ce qu'on essaye de faire ici, c'est ça, c'est amener le visiteur petit à petit par la récurrence de ses venues, ses découvertes, des expositions au fil des saisons, de s'aiguiser le regard et de se poser la question de ce qui fait œuvre, quand est-ce qu'elle se signifie, quand est-ce que je l'aperçois, etc. Et c'est vrai que du coup l'invitation faite à Élodie, elle est aussi liée à cette réalité. Tout à l'heure on parlait de cette capacité qu'elle avait à pointer le moment où tout se cristallise et où tout bascule, aussi la fragilité des choses. On est ici dans une salle, vous avez des peintures, je vous invite à les regarder de très très près. Ce sont des peintures, ce ne sont pas des photographies et on pourrait s'y tromper. Et au moment même où la peinture est à son maximum, elle disparaît puisqu'elle devient photographie. Au moment où Élodie, parce qu'elle est au plus près des réalités, des scènes rock, prend des images et veut être au cœur même de l'instant musical, elle ressort des images qui sont fragmentaires et qui sont à la limite de l'abstraction. Et pourtant, elles sont tout aussi pleines de vie et d'engagement de la part de l'artiste que ces peintures qui sont ici. Donc voilà, cette qualité qu'a Élodie et qu'ont les artistes à nous donner à voir de manière différente des perceptions que l'on peut partager avec eux ou avec elles, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, oui.
C'est vraiment une œuvre très polyphonique.
Oui, tout à fait. Bah, d'abord parce qu'elle va justement interpeller des champs de représentation différents, parce qu'elle va investir des réalités, des formes d'expression différentes, entre ce qui est de l'ordre d'une composition qui renvoie en effet plus à la musique contemporaine, aux musiques abstraites, aux musiques concrètes, et puis en même temps elle nous donne des images qui sont très rock, qui sont des images qu'elle récupère la plupart du temps, qu'elle identifie dans des revues, elle sollicite les autorisations des photographes ou des groupes de musiciens. On a ici une image de l'artiste Nikolaus Gansterer qui est présent actuellement dans la dernière exposition. C'est incroyable. On programme un artiste et on se rend compte que dans le corpus d'œuvres d'Élodie, finalement, elle a choisi d'une de ses œuvres pour faire cet exercice hyper vocaliste qu'elle mène dans sa peinture. Donc voilà, ça crée aussi des liens et la polyphonie, elle est aussi dans cet enjeu-là.
Bon, mesdames et messieurs, d'entre Loire et Loin, on est vraiment désolé d'être passionné et passionnant aujourd'hui. Hein. On continue la visite. Nikolaus Gansterer und Klaus Speidel.
Tout à fait. Un duo. Alors un duo d'artistes, de co-créateurs, qui se déterminent co-créateurs sur cette exposition, mais l'un est artiste plasticien, Nikolaus Gansterer, et Klaus Speidel, lui, est plutôt commissaire, critique d'art, c'est un thésard, il fait une thèse actuellement sur les récits et la narration dans le commissariat d'exposition. Tout à l'heure, on parlait du fil de saison, mais qui est aussi une forme de mise en récit, en fait. Chaque saison, c'est 10 expositions, et c'est comme 10 feuilletons, comme une série. Et c'est aussi la possibilité d'amener à feuilletonner finalement une densité d'informations, d'œuvres sur l'année qui est abordée sous cet angle-là. Et dans l'exposition, ils mettent un peu en abîme ce principe-là. Alors, ce sont deux acteurs de l'art contemporain qui vivent tous les deux à Vienne, qui se sont rencontrés au gré d'un article sur le dessin que Klaus a écrit il y a un an et demi pour Art Newspaper. Et à ce moment-là, je l'avais invité à envisager une collaboration au titre de commissarien. Et comme il avait tout particulièrement donné une transcription du travail de Nikolaus Gansterer intéressante, je lui avais dit ça serait bien d'inviter aussi Nikolaus. Ils se sont rencontrés et du coup, c'est devenu un duo, on pourrait dire presque un collectif sur cette exposition-là. Tant ils passent toute leur énergie à envisager ensemble, à tous les niveaux, pour chaque objet, pour chaque installation, pour chaque propos, un dialogue fécond autour de ce qui fait sens et ce qui fait création. Donc toute l'exposition est comme un grand atelier des grandes tables de jeu et de réflexion. C'est comme une discussion philosophique au sens 18e siècle, siècle des Lumières, où on passait son temps à discuter autour d'une table. Là, c'est la même chose. Ils ont fait de l'exposition, finalement, la trace des échanges et des cheminements de pensée qui ont été les leurs.
Bon, écoutez, Monsieur Weber, je prendrais bien une décision définitive. Laisser la salle, la dernière salle mystérieuse, laisser le public la découvrir, peut-être avoir la chance, comme j'ai eu aujourd'hui, d'avoir les explications formidables et poétiques, j'insiste, d'Éric, de Goutte et de Louise également. Ils sont très complémentaires. Ça a vraiment été une chance pour nous de les rencontrer aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment pas la dernière. Surtout, Éric, que vous avez un Éric Dietmann juste à l'entrée qui nous dit bonjour. Oui. Alors ça, c'est formidable. On aura l'occasion d'en reparler, j'espère.
Dans le cadre de Presqu'île, puisque Presqu'île est une exposition permanente ou semi-permanente, en tout cas, on est dans un principe d'offres qui sont disposées dans le parc et même un peu plus maintenant qui s'aventurent dans le bourg même d'Amilly. Ce sont des expositions de longue durée, les œuvres sont là pour plusieurs années. Elles sont renouvelées régulièrement les unes après les autres, donc Presqu'île est toujours une exposition en devenir, n'est jamais figée. Mais ça sera avec grand plaisir qu'on pourra reparler de l'installation et de l'œuvre de Dietmann ici.
Merci. Alors on prend rendez-vous, Louise.
Avec plaisir. Ouais.
Merci, à bientôt.
À très bientôt.
Drolum, c'est la 6e saison du Centre d'art contemporain d'Amilly, les tanneries, lestanneries.fr, pour avoir tout le programme, pour tout savoir. 6e saison, ça veut dire que ça fait 5 ans, depuis 2016 en fait, que les tanneries ont ouvert. On en parle avec Gérard Dupaty, le maire d'Amilly.
Gérard Dupaty, vous allez participer à cette inauguration. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que l'aventure a démarré.
Oui, elle a démarré bien avant même, hein, puisque il y a une histoire amilloise qui date de plus de 20 ans. Donc, les arts à Amilly, les arts plastiques en particulier, effectivement, ont déjà une histoire bien inscrite dans le paysage urbain. Voilà, alors effectivement, avec ce centre des tanneries, ça a donné une dimension supplémentaire et un retentissement bien au-delà de notre agglomération, et puis, je veux dire, qui sera bientôt national, s'il ne l'est déjà.
Oui, c'est ça, il va y avoir un label.
Voilà, c'est attendu, je pense que d'après les autorités, nous devrions avoir ce label, le Centre National d'Art Contemporain, à la fin de l'année. Voilà, ce sera pour nous une belle marque de confiance, et puis, j'allais dire aussi un retour sur investissement, puisque ça a été pour une petite ville comme Amilly, un choix politique très fort.
Et une petite dose de chance, je crois, à l'époque.
Oui, effectivement, c'était une opportunité, mais nous l'avions anticipé, cette opportunité. Heureusement d'ailleurs, parce que nous avons saisi la balle au bon et nous sommes substitués à un projet tourangeau. Voilà, et ma foi, nous étions là au rendez-vous, au bon moment, ce qui nous a permis de bénéficier effectivement de subventions importantes, puisque c'était quand même, je le rappelle, un budget conséquent pour la ville d'Amilly de 8 millions d'euros. Voilà, mais grâce à l'Europe, à l'État, à la région, au département, à l'agglomération, ma foi, tous ces partenaires nous ont permis d'aboutir et de faire aboutir ce projet auquel, effectivement, je suis très attaché.
Ce que j'aime beaucoup dans cette aventure, c'est qu'on n'a pas là l'histoire d'une boîte vide qui concrétise un concept, mais que c'est l'aboutissement, la concrétisation de toute une démarche artistique de la part de la gare en particulier.
Voilà, effectivement, ça. Il y a eu aussi ce long cheminement avec cette association, la gare, qui a fait un énorme travail. Et il a fallu qu'on pose les jalons et pour obtenir cette confiance de la part de nos partenaires, il fallait déjà avoir fait quelque part ses preuves.
Et elles étaient largement faites,
ce qui nous a permis justement d'être crédibles auprès de nos partenaires institutionnels et de pouvoir mener ce projet à bien. Voilà, donc on ne partait pas de rien, bien au contraire. Je crois qu'il y avait un travail, je vous dis, de 20 années derrière, qui nous ont permis, ce travail justement nous a permis d'aboutir à la réalisation de cette ambition.
Et c'est pareil, le travail de sensibilisation du public vient de loin, mais il continue. On en a parlé avec Louise, avec tout le travail de médiation qui est fait et qui fait que ce lieu n'est pas un lieu hors sol au sein de la cité.
Ce qui est important, effectivement, c'est que ce projet et ce qui s'y passe, il faut que la population se l'approprie. Sinon, je vois pas l'intérêt. C'est pas fait pour une petite élite d'initiés. C'est fait, effectivement, pour tout le monde. Tout le monde, et en particulier, on passe par le monde scolaire, qui est là régulièrement, et les établissements scolaires aussi, qui participent justement à la mise en place de ces installations. Donc, il y a une implication bien au-delà. C'est un public très large. Voilà, c'est ouvert à tous les publics.
Voilà. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci de m'avoir écouté.
Life could be a dream. Life could be a dream. Do, 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 shaboom. Life could be a dream. Shaboom. If I could take you up in paradise up above. Shaboom. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and open, we'll meet again, boom. Ding dong, ding dong, a lang, a lang, a lang. Oh, 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 pip, a bib, a rob, a dib. Oh, life could be a dream. If only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart.
Every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, maybe we'd be so fine.
Oh, life could be a dream. Shaboom, if I could take you up in paradise up above. Shaboom, then tell me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and hope we'll meet again. Boom, boom, boom. Shaboom, if I could take you up in paradise up above. Shaboom, and tell me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and hope we'll meet again. Boom, boom, boom. Ding dong, ding dong. Shaboom, la lang, 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 la
lang, la lang, la lang, la.
Nous sommes toujours entre Loire et Loin. C'est le magazine du Gâtinais sur C2L et sur les réseaux. Un rendez-vous cet après-midi à la maison des associations de Chalette à partir de 14h. Ce sont les associations sportives chalettoises qui vous donnent rendez-vous. Démonstrations, renseignements, inscriptions, etc. Le service des sports nous en dit plus au micro de Patrice Avzar.
Le 2 octobre prochain, forum des associations. Un petit peu le sens de ce rendez-vous.
Donc le forum des associations, c'est quelque chose qui est assez commun. Hein. Toutes les collectivités en général en organisent une. C'est de pouvoir donner la possibilité aux associations de se présenter ou de se représenter en ce début d'année de rentrée sportive. Suite au Covid, il y a beaucoup de la relance sportive. Et on en entend largement parler après les Jeux Olympiques d'une part, mais aussi par rapport aux écoles. Et faut donner aussi un petit coup de pouce aux associations. Donc on invite toutes les habitants, les habitantes à venir nous retrouver le 2 octobre à la maison des associations pour que rencontrer les associations, il y en aura une douzaine de présentes qui feront ou pas des démonstrations, mais il y aura aussi ceux qui n'ont pas pu être disponibles où on pourra aussi donner les différentes informations.
Les associations, elles étaient demandeuses de ce rendez-vous?
Oui, tout à fait. Ça fait plusieurs années. Hein. En général, on fait une première partie au village des sports au mois de juin, en fin de saison, pour que les gens puissent voir qu'est-ce qui peut se passer à la rentrée et en début de saison, de façon à pouvoir avoir tout de suite les contacts, parce que des fois, en deux mois, il peut se passer plein de choses.
Mais c'est vrai que là, avec la situation sanitaire, tous ces rendez-vous, très compliqués à mettre en place.
Oui, très compliqué à mettre en place. De toute façon, on sera soumis au protocole sanitaire. Hein, c'est-à-dire que pour venir, il faudra avoir le pass sanitaire. Hein, il y aura une entrée, ça sera un espace avec le pass sanitaire. Donc, les autres renseignements, si jamais les gens n'ont pas le pass sanitaire et qu'ils ne peuvent pas se rendre compte, sur place, il y aura toujours la possibilité d'avoir de chercher les renseignements, soit en nous appelant, soit en allant sur le site de la ville où il y aura les différentes coordonnées à retrouver. Donc voilà, il y a quand même un réseau d'informations qui permettent aux gens de pouvoir quand même avoir l'ensemble des informations afin que leurs enfants ou les adultes puissent venir pratiquer une activité sportive.
Donc, comme vous le disiez, une douzaine d'associations et des démonstrations, je crois, pour ceux qui aimeraient découvrir une discipline.
Oui, donc on mettra en place des associations avec des démonstrations avec les associations. Donc, il y aura une aire de tatami où ils pourront exercer tous les sports de combat, des démonstrations de gym et puis de vélo aussi, normalement.
Et le public, il pourra essayer ou c'est vraiment juste venir voir comment ça se passe ?
Oui, oui, le but, c'est que les enfants présents puissent essayer. Et puis, justement, ça permettra de voir si ça leur convient, ce sport ou pas.
Voilà, donc ils viennent, ils essayent et puis peut-être qu'ils signent après.
Voilà, c'est ça.
Et on rappelle, donc, le rendez-vous,
voilà,
ici.
Donc, le rendez-vous, c'est donc le samedi 2 octobre, rue Claude Debussy, 32 rue Claude Debussy, à la Maison des Associations de Chalette. L'action se passe de 14h à 18h, voilà, dans l'après-midi. Donc, voilà, on invite tout le monde à venir nous retrouver. Il est temps de repartir, de refaire du sport. C'est des bons moments de retrouver nos associations sportives qui sont très demandeuses et qui ont mis plein de choses en place pour pouvoir redonner un nouvel élan à l'activité sportive sur Chalette.
Voilà donc le forum des associations sportives de Chalette. Je vous le rappelle, c'est cet après-midi à partir de 14h à la Maison des associations de Chalette. C'est rue Claude Debussy. Je vous rappelle également le marché art et création à Montargis. C'est chez la Reine Soleil, au 9 rue Raymond Tellier à Montargis. Et c'est toute la journée. Cet après-midi également à 16h30, une rencontre avec les commissaires de l'exposition de la Croix et le duel romantique. Ça, c'est au musée Giraudet. La 6e saison du Centre d'art contemporain Les Tanneries à Amilly, avec 3 expos à découvrir cet automne. Bah, vous pouvez aussi également y aller ce week-end. Et durant tout le week-end d'ailleurs, il y a les journées de l'arbre à l'Arboretum des Bars à Nogent-sur-Vernisson. On ira bientôt leur rendre une petite visite, on n'a pas encore eu le temps. Mais vous pouvez y aller ce week-end, il se passe plein de choses. Nous étions entre Loire et Loin. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous nos invités. Merci à toute l'équipe. Sandrine, Patrice, Anita. C'était Pascal Weber au micro et à la réalisation. Rendez-vous en vidéo sur notre page Facebook et rendez-vous à la radio samedi prochain à 10h sur C2L. Bonne semaine à toutes et à tous.
chèque, c'est des chèques, ouais, des...